Bonne nouvelle pour ceux qui travaillent au salaire minimum. C'est près de 300 000 Québécois qui vont voir leur salaire augmenter de 12 à 12,50 de l'heure. Vous allez me dire, ouais, petite différence de 20 $ mais quand on est au salaire minimum, 20 $ je pense que c'est pas rien. En tout cas, c'est mieux que rien. La bataille du salaire minimum, vous savez qu'elle se discute, elle se fait depuis plusieurs années au Québec et ailleurs, dans d'autres provinces au Canada. D'ailleurs, si on regarde un peu en Ontario, le taux de salaire minimum, c'est 14 En Alberta, c'est 15 $ Là, au Québec, on est à 12,50. On vise toujours, il y a beaucoup de groupes là, qui l'ont mené, cette lutte, et qui la mènent encore et qui disent minimalement, il faudrait que ça soit 15. Fait que ça, il y a quand même, c'est la deuxième hausse en deux ans. Il y a même des entrepreneurs qui vont dire, voilà, un instant, donnez-moi de l'air, c'est un petit peu beaucoup. On va voir comment vous voyez ça, vous, puis j'aimerais ça que vous me téléphoniez pour nous dire, est-ce que vous pensez que le 15, on devrait y arriver plus rapidement? 12,50, est-ce que ça va changer si vous travaillez au salaire minimum? Ça va changer quelque chose dans votre vie? Et tous les plus jeunes qui nous écoutent puis qui arrivent sur le marché du travail, moi, j'en entends souvent qui me disent, hey, moi, le salaire minimum, ça me tente pas vraiment, ça m'intéresse pas vraiment. Nous en avons avec nous. Je vous donne notre numéro d'abord avant de vous les présenter, 514-790-9850 dans la grande région de Montréal. Et si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez nous joindre sans frais en faisant le 1-866-790-9850. Camille Goyette-Gingras travaille dans le milieu de la mode. Elle travaille pour la compagnie Mimosa, qui est une marque éthique éco-responsable de vêtements. Elle est assistante de designer. Merci, Camille.
Bonjour.
Tu as déjà travaillé au salaire minimum,
ben oui,
dans des boutiques, bien sûr.
Commerce au détail. On commence souvent comme ça dans la mode. Hein?
Voilà. Et là, en ce moment, es-tu au salaire minimum?
Ben non.
OK, quand même. Ouais, tu travaillerais plus au salaire minimum?
Non, je travaillerais plus au salaire minimum. J'ai fini mes études en design de mode masculine, puis après ça, ben on augmente un peu. La mode, hein, c'est un peu le festival des mauvaises conditions de travail, là. Moi, je suis chanceuse, c'est une entreprise éthique, donc je suis bien traitée, mais souvent, c'est quasiment valoriser les mauvaises conditions de travail. Ah, tu sais, quand tu vas arriver sur le marché du travail, Camille, c'est comme ça, en mode, on fait des longues heures, ils ne sont pas toujours payés, tes stages, ils ne seront pas payés, ça va être du bénévolat, puis ça, c'est comme normal dans notre milieu. Ça, c'est juste au Québec, là, on pourrait embarquer sur les mauvaises conditions de la mode à travers le monde. On les connaît un peu, mais ça rend ça très difficile, surtout que nous, on dépend encore beaucoup du commerce au détail. J'ai hâte d'en parler d'ailleurs avec mon collègue des entreprises indépendantes.
Oui, que je vous présente tout de suite. Simon Gaudreau est directeur principal de la recherche nationale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI. Donc, Simon qui représente des milliers, des dizaines de milliers de PME au Québec. Hein? Beaucoup
oui,
de
c'est
membres.
Ça. Environ 110 000 entreprises qui sont membres de la FCEI partout au Canada, environ une sur cinq au Québec.
Comment vous voyez ça, l'augmentation du salaire minimum aujourd'hui?
C'est la hausse qui a été annoncée lorsque ça a été annoncé, hein, parce qu'on sait que c'est en vigueur aujourd'hui, ça a été annoncé il y a quelques mois, ce qui était quand même apprécié là, dans les circonstances d'avoir quelques mois pour se préparer. Hein. Des fois, les entrepreneurs dénoncent un peu ce manque de prévisibilité-là. Puis c'est un peu aussi, par contre, ce qui est arrivé cette fois-là. Hein. Le gouvernement qui avait annoncé un plan sur 4 ans pour nous amener à 50 % du salaire moyen là, pour le taux du salaire minimum. Et finalement, qui a dit, OK, je vais changer d'idée finalement. Je vais faire mon 4 ans en la première année
en
de mon
deux,
plan.
Ouais.
Fait que là, ça a comme pris un peu les entrepreneurs par surprise. Et c'est une hausse plus importante qu'anticipée. Il y a un quart des PME environ qui nous disent, moi, je suis obligé de hausser le salaire de tous mes employés à cause de la structure salariale, hein, et puis à différents niveaux. Donc, ça a des impacts, ça, qui débordent largement le cadre simplement des salariés au salaire minimum dans l'entreprise.
Puis ça, on va y revenir là-dessus parce que je pense que c'est ça qui fait un peu grincer des dents dans le milieu de l'entreprise, de la PME. C'est que, et puis même d'un point de vue des travailleurs, vous allez sans doute, d'ailleurs, ceux qui m'écoutez, là, nous le dire. C'est-à-dire, quand vous voyez que la personne qui est à côté de vous qui vient de prendre 50 sous d'amélioration de son salaire, bien là, vous vous dites, OK, pourquoi pas moi aussi? Est-ce que ça a effectivement le risque, c'est d'avoir une augmentation du coût de la vie parce qu'on est obligé d'augmenter le salaire de tout le monde? Fred William Miro, 12,50 $ vous en pensez quoi? Vous êtes un jeune aussi, comme Camille. Vous avez participé à ce débat là, sur le 15 $ vous l'avez mené aussi en partie la lutte comme jeune qui regarde ça, qui dit c'est ça qui m'attend sur le marché du travail, ça me tente pas. Comment vous voyez ça, cette augmentation aujourd'hui?
Bien, comme président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, on doit d'abord saluer la hausse qui est quand même à 4,1 %. C'est un peu plus élevé que ce qu'on a connu dans les dernières années. C'est un bon premier pas. 60 % des personnes au salaire minimum sont des jeunes de moins de 24 ans. Donc, on sait que ça touche beaucoup les étudiants, les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail.
60 % vous avez dit?
60 %.
C'est beaucoup, là. Hein?
C'est une grosse proportion. Ce qu'on se rend compte en ce moment, c'est que les jeunes, parce qu'ils sont aux études, parce qu'ils ne peuvent pas travailler 40 heures semaine, pour eux, le salaire minimum actuellement n'est pas suffisant pour couvrir leurs frais de subsistance. Puis on peut penser notamment à la crise du logement à Montréal qui fait déjà monter les prix des loyers. Bien, les étudiants n'y arriveront pas avec une hausse de 50 cents à payer ces loyers-là.
Ouais. Il y en a beaucoup des jeunes autour de moi, puis ils me disent, hey, 12$ ou 12$50. Moi, j'étais toute fière de leur annoncer, hey, 50 cents de plus par heure. Puis ils me regardaient genre, excuse-moi, là, mais c'est comme zéro impact dans ma vie. Ça me tente tellement pas de travailler à ce salaire-là. Parce que, même quand on est un jeune, ça veut pas dire qu'on est d'accord pour être du cheap labor. C'est un peu comme ça qu'on est perçu quand on est jeune. Moi, je me souviens de ma jeunesse, puis c'était, je peux vous dire, là, ça va traduire mon âge de X. Mais on se remémorait ces grandes années avec mon équipe, qui est aussi une équipe de X. Puis nous, à l'époque, on était combien? 4,79 de l'heure à peu près, c'était ça? C'est ça, le salaire minimum. Ouais. Puis,
mais c'est comme si on acceptait la pauvreté des jeunes. C'est normal, puis il n'y a pas de problème. Quand tu es jeune puis tu es étudiant, faut que tu manges tes bas, faut que tu sois pauvre. Ça fait partie comme du rite de passage
d'être étudiant. Faut que tu manges du beurre de peanut sur des pommes.
C'est ça, c'est comme important pour ton apprentissage, mais je comprends pas pourquoi on accepte plus la pauvreté des étudiants que d'autres formes de pauvreté, parce que c'est de la précarité quand même, la précarité chez les étudiants, puis c'est un gros problème. C'est un combat d'ailleurs des fédérations étudiantes. Là.
Et justement, Oui, allez-y.
Je vais apporter une nuance à ça, parce que la perspective est différente.
Vous êtes un quoi? Vous n'êtes pas un X? Vous êtes trop jeune? Comme, vous n'êtes pas un millénial non plus? Vous êtes trop vieux?
Je suis entre les deux, je dirais. Je suis comme à la frontière de
vous souvenez-vous de votre premier salaire minimum?
Moi, c'était... j'ai fait salaire minimum à pourboire, là, parce que j'ai travaillé comme boss boy. Ouais. Puis j'ai fait aussi pour une grande bannière dans le commerce de détail. J'étais proche du salaire minimum. Puis dans le temps, c'était 7 et 5. 7 $ et 5 sous de l'heure. Mais la façon dont je vois ça, c'est... Quand je suis arrivé là, sur le marché du travail, là, je travaillais pour une grande bannière. Bon, j'étais sur le plancher, puis j'étais dans l'entrepôt, puis je transportais des boîtes. J'étais peu qualifié, j'étais peu expérimenté. Mais j'étais quand même content d'avoir une première job. Puis j'habitais chez mes parents. Hein? Il y a 57% des gens qui gagnent le salaire minimum là, qui habitent chez leurs parents. Hein? C'est des jobs, là, il faut se le dire aussi en grande partie, le salaire minimum, qui sont là pour mettre un premier pied sur le marché du travail. Pour acquérir de l'expérience dans le service à la clientèle, des notions de base, on va suivre l'horaire, tout ça. On commence, là. Et on n'est pas nécessairement toujours les plus outillés puis les plus productifs, mais on nous donne une première chance, on fait nos preuves, puis après ça, on peut monter les échelons. Moi, je l'ai fait aussi dans mon parcours, là. Des fois, on est chez un employeur, puis ils reconnaissent nos compétences, puis après ça, ils vont nous donner du salaire supplémentaire puis des responsabilités supplémentaires. Ça a toujours marché comme ça.
Fred William, là-dessus, t'es d'accord avec ce que dit Simon?
Pour faire nos preuves, encore faut-il avoir les moyens de les faire. Le problème actuellement, c'est que les étudiants, notamment dans les stages enseignants, puis les stages dans l'éducation, on en a déjà parlé, sont pas rémunérés en ce moment. On a un salaire minimum qui est peut-être pas assez élevé pour subvenir à leurs besoins. On parlait des dépenses de logement des étudiants. C'est 42% des étudiants qui vont effectuer des dépenses de logement durant leurs études. Ce faisant, avoir un salaire minimum qui est majoré de 50 cents par heure, c'est peut-être pas suffisant. En fait, c'est certainement pas suffisant pour mener à bien leurs bonnes études. Mm. Et à ce sujet-là, on a une lutte qu'on fait avec l'Union étudiante du Québec et les centrales syndicales pour avoir un salaire à 15 $ de l'heure, ce qui est la norme dans beaucoup de provinces, dans quelques États américains, et qui permettrait au Québec, aux travailleurs, au salaire minimum, d'avoir un minimum de décence pour effectuer leur travail, leurs études et les autres projets qu'ils ont dans leur vie.
Mais l'impact, on disait, puis parlons-en maintenant, l'impact sur tous les salaires de tout le monde, est-ce que vous le reconnaissez? Ça se peut que ça frustre certaines personnes qui verront à ce moment-là. Si tu vois l'autre à côté augmenter son salaire, mais toi, ton salaire n'augmente pas. Mettons quelqu'un qui fait déjà 15 $ de l'heure, bien, il va falloir peut-être le mettre à 17, 17,50 $ si on veut conserver cette espèce d'écart qui est souvent dû aussi à l'expérience, à l'éducation, à plein d'aspects.
Tout à fait, mais...
Vous avez considéré ça dans
oui,
votre...
Oui, puis il ne faut pas oublier non plus là, que du côté de la FEC, on n'est pas en faveur d'une hausse drastique à 15 $ de l'heure. On sait que ça prendrait quelques années pour éviter justement, entre autres, l'impact sur les PME. On pense que le gouvernement pourrait avoir un rôle d'atténuateur pour les petites et moyennes entreprises, là, notamment en jouant avec leur fiscalité, pour favoriser là, la hausse de ce salaire-là. Ce qu'on veut, c'est que les travailleurs aient un peu plus d'argent et ensuite que les entreprises soient capables d'absorber ce choc-là au cours des prochaines années. Donc, il y a quand même des mesures qui existent existe pour pas que ça mette en péril l'économie puis que ça permette à l'ensemble des travailleurs de voir une augmentation salariale.
Parce que là, vous parlez, vous représentez des étudiants. Vous êtes président de la Fédération étudiante collégiale. Vous disiez 60 % des gens qui travaillent au salaire minimum, ce sont des étudiants. Il en reste quand même 40 % des gens qui sont d'autres travailleurs. Ça touche 300 000 personnes au Québec, là, l'augmentation du salaire minimum. Il y a Mélanie, entre autres, qui nous appelle. Bonjour Mélanie, je pense que vous êtes mère monoparentale. Vous travaillez au salaire minimum. Donc là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous venez de gagner au moins 20 $ de plus par semaine. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non?
Ben non, parce que ça, c'est du 40 heures semaine. Et dans le domaine, le salaire minimum, le 40 heures semaine est très rare.
OK, je vous écoute.
Bon, moi, j'en fais 20, 22 heures semaine parce que j'ai des enfants en temps partiel, parce que le service de garde, la garderie, la gardienne va coûter plus cher que ce que je rapporte.
Oui. Donc, vous, 22 heures, 50 cents, ça vous fait 11 $ de plus par semaine. Ça fera pas une grosse différence. Là.
Ben là, ça, c'est une soirée cheap. Cinéma le vendredi soir quand les enfants reviennent. C'est d'habitude.
Ouais. Et vous dites, Mélanie...
Moi, j'étais sur l'aide sociale juste avant.
Oui.
Puis, au lieu de mettre le salaire minimum à 15 $, là, je veux juste apporter une précision. Moi, j'étais sur l'aide sociale. J'avais les avantages pour les dents, les lunettes, certains produits de santé, les médicaments payés. Je travaille au salaire minimum. Je vous dirais, je fais peut-être 200 $ de plus par mois que si j'étais sur l'aide sociale. Mais je dois payer mes dents, mes lunettes, mes... Pourquoi on ne pourrait pas juste offrir ces services-là aux gens? Un examen dentaire, là, ça coûte une fortune pour quelqu'un au salaire minimum.
Non, non, c'est sûr, tout à fait. C'est un bon point.
Si on augmente le salaire minimum encore plus à 15 $ moi, ce que je remarque, c'est beaucoup de petites entreprises, de petits dépanneurs, quoi que ce soit, n'ont pas les moyens de payer ces employés-là. On est déjà en crise. Nous, il nous manque toujours des caissières où je travaille, là. Parce que les jeunes, ben, ils peuvent pas faire l'horaire de 2 h l'après-midi à 7 h le soir.
Puis vous pourriez pas faire 40 heures, vous, par exemple, Mélanie?
Ben, c'est impossible parce qu'il faut donner des heures aux autres étudiantes qui veulent des heures. Je peux
c'est
pas
des heures fractionnées.
Non plus.
Ouais, je comprends.
Puis moi, si je fais 40 heures, je vois mes enfants quand?
Ouais. Oui, ben ça, c'est le lot de bien des gens qui travaillent, malheureusement. Mélanie, merci beaucoup. On va s'arrêter ici, très courte pause. On revient tout de suite avec vos commentaires. Dites-moi si vous pensez que cette augmentation du salaire minimum, 50 sous de plus aujourd'hui, quelqu'un qui fait 12 va faire 12,50. Craignez-vous que ça ait un impact important sur le salaire des autres? C'est-à-dire qu'il y ait moins d'écart entre quelqu'un qui fait ce salaire-là minimum et quelqu'un qui gagne 2-3 autres dollars de plus de l'heure. Ça veut dire que finalement, cette personne-là se trouve être un peu désavantagée. Est-ce qu'on devrait augmenter de 50 sous le salaire de tout le monde, finalement, dans un monde idéal? On voterait pour ça, je pense. Hein? 514-790-9850. À tout de suite, tout le monde. On dit que le travail, c'est la santé. Il y en a aussi qui disent que rien faire, c'est la conserver. Mais ça, c'est autre chose. En même temps, je trouve ça intéressant le témoignage de Mélanie tout à l'heure qui nous disait, moi, j'étais sur l'aide sociale. Puis là, finalement, je travaille 20-22 heures par semaine, des heures fragmentées dans un magasin d'alimentation où on veut pas me donner plus parce qu'il faut garder des heures pour des étudiants, justement. Fait que donc, dans le fond, je fais 200 $ de plus par mois que si j'étais sur l'aide sociale et je perds tous mes avantages. Donc, et ça, je trouve ça intéressant comme question. On va y revenir parce que Simon Gaudreau, vous êtes à la FCEI, mais vous êtes aussi économiste. Donc, on reviendra tout de suite après avoir entendu Steve là-dessus. Bonjour, Steve. Vous avez travaillé au salaire minimum il y a longtemps. Pardon.
Exactement, il y a longtemps. Je ne veux pas y retourner.
Mais non, on comprend. Là, vous faites combien par rapport à cette époque? Comment vous faisiez à l'époque d'abord?
Je travaille dans la construction. Fait que c'est sûr qu'évidemment, c'est plus payant que le salaire minimum. Mais
oui.
Moi, je comprends la personne qui a appelé tantôt qui dit « Comment tu peux passer de l'aide sociale où est-ce qu'on t'aide à un salaire minimum où est-ce qu'on t'aide plus pantoute puis tu fais juste 200 $ de plus par mois? » Fait que moi, je resterais sur l'aide sociale moi aussi.
Mais c'est ça
avec
le problème.
Avec des enfants, des allocations, tout
exact.
Ça. Fait que moi, je pense pas que quand même qu'on donnerait 15 $ à l'heure au salaire minimum, c'est pas bon parce que c'est toute la chaîne de tous les employés qui va vouloir augmenter.
Ouais.
Moi, je gagnais 15. Puis là, ben, toi qui gagnais 12,5 qui a moins d'ancienneté que moi, tu tombes à 15 aussi. Ben, là, moi, je vais vouloir 18. Fait que finalement, on se tire dans le pied. Moi, je pense que le problème, c'est d'aider les gens qui sont sur l'aide sociale, de dire, tu sais, exemple, je sais pas, moi, si tu gagnes 12 $ à l'heure, ben, tu conserves, nous autres, la construction de la Médiconstruction, mais tu sais, tu conserves une certaine assurance maladie, les lunettes, tout ça.
Ouais.
Après ça, ben, si tu es rendu que tu gagnes, exemple, je sais pas, moi, je dis, mettons 15$ à l'heure, ben là, tu vas perdre telle affaire, puis rendu à 17$ à l'heure ou à 16$, ben là, tu n'as plus rien de ça.
Pour ramener progressivement les gens à s'intéresser au marché du travail, à leur faire comprendre qu'il y a plus d'avantages à être inclus dans la société que d'être. Parce que c'est pas le fun d'être sur l'aide sociale, là. T'es quand même un peu.
Non, c'est pas le fun.
T'es quand même assez isolé, là, sincèrement. Merci, Steve. Merci beaucoup. C'était un très bon point. Parlons-en justement, Simon Gaudreau, vous êtes à la FCEI, vous êtes aussi économiste. Donc, cette vision-là là, de dire, bon, les gens sur l'aide sociale, il faudrait qu'ils réintègrent le marché du travail, puis quand ils le font, ben on les pénalise.
Bien, je pense que quand on parle d'argent disponible dans les poches à la fin de la journée, là, on parle de la bonne chose. Hein. Ce qui est important de se soucier, là, c'est le revenu disponible. Mm-hmm. Puis dans le jargon, des fois, on va dire après les impôts, après les prestations, les transferts. C'est ça qui est important. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ça prend un mix de solutions, pas juste tout miser sur le salaire minimum, mais d'avoir des bonnes prestations dépendamment de la situation de la personne. Est-ce qu'elle est avec enfant? Est-ce qu'elle fait un retour au travail? Et s'assurer que ce qu'on appelle encore une fois là, dans le jargon économique, de dire bon, chaque dollar supplémentaire que je vais gagner parce que je perds des prestations puis parce qu'on se met à m'imposer, ben finalement, ça c'est pas valorisant.
Ils vont me coûter plus cher ou je vais le perdre, ce dollar-là.
Puis s'assurer que ces dollars-là, ils deviennent intéressants. Donc, on fait ça comment? Ben on s'assure que les gens puissent pas perdre trop de prestations. On s'assure que les gens soient pas trop imposés.
Mais ça, faut changer les lois.
Faut changer. On a fait des pas intéressants. Il y a ce qui s'appelle le bouclier fiscal qu'on a mis en place dans des budgets dans les dernières années au Québec, qui est une mesure novatrice qui permet aux gens de dire, ben moi, je vais pas perdre trop de prestations si je change ma situation, si je me mets à travailler plus d'heures. Ça nous prend plus de solutions comme ça et des mesures plus ciblées parce qu'on a besoin de tous nos bras au Québec là, présentement, puis de tous nos cerveaux.
Mais là, les gens ont fait leurs impôts hier. Puis là, j'ai une étudiante qui travaille à temps plein qui m'écrit puis qui me dit, moi, j'ai fait mes impôts hier. Puis là, je me rends compte que l'année dernière, en 2017, dans mes impôts, j'ai eu des retours d'impôts parce que j'ai travaillé quelques heures seulement tout en étudiant. Là, cette année, j'ai fait beaucoup plus d'heures de travail. Je pensais que ça allait m'avantager puis que j'aurais quand même des retours d'impôts parce que j'ai travaillé plus fort tout en étant aux études. Ça a été plus difficile. Puis là, elle dit, comment ça se fait? Là, il faut que je paye. Il faut que je paye de l'impôt.
Oui.
Fait qu'elle dit, finalement, si j'avais su, j'aurais fait beaucoup moins d'heures de travail.
C'est pas avantageux de travailler. Il y a une crise de la main-d'œuvre, mais bon.
Mais
tu sais, moi, je comprends
pas. C'est un problème.
Ben oui, c'est un problème, mais je comprends pas pourquoi l'entreprise veut toujours se déresponsabiliser face à l'employeur. C'est l'entreprise qui est responsable face à l'employé. C'est l'entreprise qui est responsable de l'emploi. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas prendre des engagements pour faire face puis contrer la pauvreté à place de tout ramener tout le temps dans la cour du gouvernement?
Les entreprises prennent des responsabilités, là, quand même, une grande part de leur.
Politique fiscale aussi. L'exemple de cette étudiante, Fred, c'est un exemple probant. Vous devez en avoir plein d'exemples comme ça, vous, à la Fédération étudiante collégiale du Québec, où des étudiants font le calcul puis disent, ben là, quand même, je travaillerais plus tout en faisant mes études. Déjà que c'est assez difficile, même s'il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils se trouvent donc à être pénalisés, là.
Tout à fait, puis c'est la raison pour laquelle il y a des réflexions à avoir, notamment là quand on parle là, de salaire minimum, on va dire, ah ben l'étudiant, il a le droit quand même au programme de prêt et bourse. C'est une minorité qui a le droit, ben pas une minorité, mais c'est pas tout le monde qui a le droit à ce programme-là. Il y a quand même des critères qui font en sorte que l'étudiant qui a pas le droit au programme de prêt et bourse et qui travaille au salaire minimum un certain nombre d'heures, pas à temps plein parce qu'il est aux études en même temps, ben cet étudiant-là va être pénalisé.
Et du fois, là, là-dessus, c'est, tu sais, on considère le salaire des parents. Mais des fois, là, tes parents, t'as pas forcément une bonne entente avec. T'as plein d'histoires, hein? Des
oui,
histoires
d'étudiants. Tu traînes tes parents en cours.
Ouais, ouais. Des fois, les parents disent, ben, arrange-toi, c'est pas à nous de payer, mais le gouvernement va quand même considérer le salaire de tes parents. Fait que si tes parents sont de la classe moyenne, puis qu'en montant, ben, toi, t'en auras pas, là, de bourse.
Ouais.
Mais tu peux emprunter, par exemple.
Tout à fait. Puis ça, on retrouve ça dans une multitude de programmes. J'ai dit l'aide financière aux études, mais à la FEC, on a un service d'aide juridique. Pourquoi? Parce que les étudiants sont considérés trop riches pour l'aide juridique de l'État, mais trop pauvre pour avoir un avocat. On ne demandera jamais à un étudiant de payer des honoraires de 200 $ de l'heure. Donc, il y a une multitude de programmes au Québec qui ne sont pas adaptés aux revenus des étudiants, aux revenus des personnes plus défavorisées. Et au-delà d'augmenter le salaire à 15 $ de l'heure, il faudrait effectivement avoir des réflexions sur les modalités de certains programmes pour
la fiscalité. La fiscalité. Vraiment. Sébastien, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Sébastien.
Bonjour à tous. Écoutez, moi, je trouve que le monde s'appauvrit de plus en plus. Juste faire un parallèle, moi, j'arrive à l'autre de la quarantaine. Quand j'ai eu 21 ans en 2001, j'ai hésité à acheter une maison. avec ma copine. Pour à ce moment-là, une maison, c'était 65 000 piastres. Je travaillais temps plein au salaire minimum, qui est à peu près dans les 7 $ de l'heure. On arrivait, on avait une hypothèque de 410 piastres par mois. Présentement, il y a 2 ans, j'ai acheté une maison, c'est 240 000, 250 000, je paye 1200 piastres. Puis les maisons que j'ai achetées, c'est une maison arrangée. Puis c'est ça que ça vaut maintenant. Ça vaut au-dessus de 200 000. Fait que
j'espère qu'elle n'est pas inondée en ce moment. Vous êtes correct,
non,
Sébastien?
Non, je pensais pas. Non, moi, je suis correct.
Non, mais savez-vous quoi? Moi, je regarde ces pauvres gens là qui, dans la zone carrément qu'on appelle la zone sacrifiée à Sainte-Marc, là. Moi, je n'en reviens même pas. Je trouve ça épouvantable. C'est épouvantable.
Ben oui, je comprends. C'est une perte totale. Là. C'est tout l'argent qui me l'a dessus. Puis là, je veux dire, en tout cas, c'est... Puis le prix des maisons est tellement fluctué. J'ai de la misère à voir quelqu'un au salaire minimum. Tu peux payer un appartement qui est l'appartement, les appartements à 400 $, t'en as pas, là. Ou à, tu sais, mettons, je sais pas, moi, c'est 100 $, mais ben, crime, c'est rendu cher.
Juste
se loger, puis ça part l'essence, ça part la bouffe, ça part.
Mais c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui travaille au noir.
Oui, ben exact.
On a un cours. L'État.
À 12 piastres et demi.
L'État fait semblant de partir après des grosses familles qui ont tout planqué dans des paradis fiscaux, grandes familles ou grandes compagnies qui sont installées à l'étranger, qui ne payent pas leur part d'impôts. Puis en attendant, ben l'État encourage de l'autre main le travail au noir avec des politiques fiscales qui sont décourageantes pour les gens.
Oui, en 20 ans, là, je comprends pas qu'on a perdu le fil, là, mais c'est fou comment que ça peut avoir augmenté par rapport à ce qu'on peut gagner présentement.
Votre exemple est très probant. Merci beaucoup, Sébastien. Je pense que ça parle à beaucoup de gens aujourd'hui. Là. Puis là, Sébastien nous le dit, là, il travaille même pas sur le minimum. Il compare deux situations, puis il a raison. Alors, imaginez, les jeunes, là, j'en ai deux au moins avec moi ici. Même si c'est bon, quand même. Ça reste un jeune, malgré tout.
Merci.
C'est difficile de s'acheter une maison puis de planifier ça. On va revenir après la pause avec vos commentaires, bien sûr. Quand vous voyez que le salaire minimum augmente comme ça de 50 sous aujourd'hui, bon, on se dit que c'est mieux que rien. En même temps, il y a comme toute une démarche à poursuivre sur l'augmentation des conditions minimales de travail pour au moins 300 000 personnes, mais plus largement. Tu sais, on parle des gens qui font 12,50, mais quand tu fais 13 piastres, 14 piastres, 15 piastres, là. François Legault en a fait un de ses chevals de bataille pendant la campagne électorale. Il disait, nous, on veut des jobs, là. On veut du 40 de l'heure. Il semble que c'était ça qu'il disait.
30-40, oui.
30-40, on veut des jobs à valeur ajoutée. Hey, on en veut-tu, nous aussi? N'importe quand, demain matin, c'est pas si facile que ça d'en avoir. Le salaire moyen au Québec, c'est 24,92 $ l'année dernière. 514-790-9850 pour nous joindre dans la grande région de Montréal. Et sans frais, vous faites partout au Québec le 1-866-790-9850. À tout de suite. Moi, je l'aime, c'est une loss. Dédé Fortin, les colocs, bien sûr. Bon, Dieu, donne-moi une job. Je travaille, c'est ce qu'il nous dit là-dedans. Je suis prêt à travailler fort, mais pas une jobine non plus. Camille Goyette-Gingras est avec moi. Elle travaille dans le milieu de la mode chez Mimosa, une marque éthique, éco-responsable québécoise.
Oui.
Je le dis comme ça, ça vous encourage. On peut aller voir le site.
Oui, allez nous voir.
Également, Fred William Miro, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, la FEC. Simon Gaudreau est à la FCEI, il est économiste. On parle de l'augmentation du salaire minimum. Vous avez peut-être vu qu'en France, en ce moment, à Paris, évidemment, il y a tous les gilets jaunes là, qui rajoutent beaucoup à toute cette question et à ces manifestations, mais disons qu'il y a pas mal de grabuge, plusieurs, il y a une couple de centaines de personnes qui ont été arrêtées jusqu'à maintenant. Dans les rues de Paris, là, ça se passe de façon un peu plus violente. Ici, au Québec, on en jase, puis on regarde un peu comment on peut améliorer nos conditions. On a Garcia avec nous. Bonjour.
Bonjour, bon matin.
On vous écoute.
Moi, j'ai déjà travaillé au salaire minimum quand j'étais beaucoup plus jeune. Puis, bon, c'est sûr que c'était... Bon, il y a personne qui veut travailler au salaire minimum. C'est pas le fun de travailler au salaire minimum, mais ça fait partie de la game, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on commence à quelque part aussi.
Vous vous dites que c'est normal que les jeunes soient payés au salaire minimum?
Bien, moi, j'ai travaillé au salaire minimum quand j'étais beaucoup plus jeune, puis il faut commencer à quelque part, c'est comme ça.
Ouais.
Ça fait partie de l'école de la vie. C'est
d'accord.
Comme ça, ça fait partie de la game.
Merci.
Puis, si on va avoir une meilleure qualité de vie, bien, on fait des formations, on va à l'école, on retourne à l'école aux études, et puis c'est tout.
Merci beaucoup, Garcia, de votre opinion. Mario, bonjour.
Bonjour à vous.
On vous écoute.
Oui, c'est juste pour dire que c'est déjà un petit peu, une cinquantaine de plus. Mais juste pour dire que j'en ai 54 ans quand j'ai commencé à 16 ans à travailler au salaire minimum qui était 5,75. On parle de 39 ans, 40 ans après, qu'on est rendu juste à 12,5. Et il y a un petit manque à quelque part.
Ah oui, pendant, vous avez raison de le dire, Mario. Pendant des années, ça n'a pas bougé beaucoup. Là. Les conditions ne se sont pas beaucoup améliorées. Peut-être Fred William là-dessus?
Bien, effectivement, il n'y a pas eu nécessairement une augmentation qui est énorme. Là. Puis j'écoutais le commentaire de Garcia, effectivement. Là, c'est sûr que le
ça
salaire...
Ça dire c'est normal que les étudiants comme vous travaillent.
Bien, oui, le salaire est fixé en fonction de l'expérience, en fonction des qualifications. Les étudiants sont au début de leur période de travail actif. Donc, c'est sûr qu'ils vont être payés généralement au salaire minimum. Le combat de la FEC et des centrales syndicales, c'est de dire ce salaire-là, en ce moment, il n'est pas assez élevé pour s'assurer que les étudiants restent aux études sans avoir des problèmes de finances. Parce que quand tu payes le logement... la bouffe, les frais de scolarité, les manuels, ben finalement, au bout du compte, c'est peut-être pas suffisant. Puis là, à ce moment-là, de travailler à temps plein et de lâcher tes études, c'est peut-être plus avantageux que de garder son emploi et ses études avec un salaire plus élevé.
Mais c'est quand même pas juste les employés, les étudiants. Il y a des gens qui travaillent à temps plein ou à semi-temps plein qui sont pas des étudiants, que c'est leur seul revenu puis la seule chose qu'ils ont pour vivre, tu sais. Puis...
Mais le problème, tu dirais, Camille, c'est-tu le fait que les gens peuvent pas travailler à temps plein, comme Mélanie qui a commencé la discussion tout à l'heure en disant, moi, je peux juste faire 20, 22 heures, on m'en donne pas plus. C'est-tu le temps partiel, le problème?
Ben, je comprends ce problème-là parce que, dans le commerce au détail, surtout dans la mode, on va essayer de prévoir, le taux de démission, si on veut. Fait qu'on va engager du monde d'avance en sachant très bien qu'il va avoir un taux de roulement élevé, ce qui fait qu'on a plus d'employés que nécessaire. Donc, on a plein de gros temps partiels, tu sais, parce qu'on sait que le taux de roulement va être élevé. Mais ça, c'est pas bon, ni pour l'entreprise, parce qu'après ça, ils sont constamment en train de former des nouveaux employés. Ça coûte cher, la formation. Hein? Puis, pendant ce temps-là, ben, les employés, ils font jamais leur temps plein, fait qu'ils finissent par tout le temps faire des salaires de misère.
Puis avoir toujours un pied en dehors de l'entreprise au cas où ils trouvent mieux, finalement. Ben, Simon,
moi,
là-dessus?
Je serais d'accord pour dire que le temps partiel, le manque d'heures, là, c'est un élément important. C'est ce que la recherche économique montre aussi. Hein? C'est pour ça que on dit, là, puis c'est une conclusion assez partagée là, parmi les chercheurs, le salaire minimum, c'est peut-être pas le meilleur outil là, pour combattre la pauvreté. Parce que si à la base, il y a un problème de manque d'heures, bien, ce que ça prend dans certaines situations particulières, là, hein, on parlait tantôt de familles monoparentales au salaire minimum. Ça, c'est 2% de toutes les personnes qui travaillent au salaire minimum. Bien, peut-être que pour ces gens-là, ça prend des mesures beaucoup plus ciblées, la fiscalité dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Parce que sinon... En augmentant le salaire minimum pour tout le monde, ben là, on vient d'augmenter des coûts de main-d'œuvre, puis il y a des effets inattendus là, sur le marché du travail. Ça vient d'augmenter les coûts d'opération des entreprises qui font des choix. Là.
Justement, moi, j'ai un entrepreneur qui m'écrit, là, qui ne veut pas que j'ai un homme qui dit moi, je n'ai pas le choix. Là. Aujourd'hui, le 50 cents d'augmentation, il me force à augmenter de 50 sous tous mes employés. Est-ce que ça va avoir cet impact-là?
Bien, je veux dire, si. La hausse est forcée. Et puis, si c'est une entreprise qui est dans une situation où il n'y a pas de marge de manœuvre, hein, il y a des industries où la marge de manœuvre, là, elle est très, très petite. Alors, on n'a pas le choix. On n'a pas imprimé de l'argent parce que le gouvernement a décidé de donner une hausse sur notre budget masse salariale de 4 % puis on avait moyen pour 2 % Il faut qu'on trouve l'argent ailleurs. Il faut couper ailleurs. Puis contrairement à ce qu'on pense, là, les entrepreneurs, ce n'est pas des gens qui se versent tous des gros dividendes à chaque année. Là, le profit médian d'une entreprise au Québec, la dernière fois que StatCan l'a mesuré, il y a quelques années, c'était 35 000 là. Je veux dire, c'est des petites opérations. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on coupe. Puis souvent, ce que nos membres, nous, à la FCI, vont nous dire, bien, j'avais 6 étudiants là, les 3 derniers étés. Bien, l'été qui vient, bien, ça va être 2. Fait que c'est, en fait, ce qui se trouve à arriver, ben, c'est les heures, souvent, pour ces emplois-là ou qui nous permettent de rentrer sur le marché du travail qui disparaissent.
Oui. Bruno est avec nous. Bonjour, Bruno.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui. Bon, ben, moi, en fait, j'ai voyagé pas mal. Puis je trouve qu'on devrait regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs aussi. Moi, je partais avec mon backpack. J'ai passé 7 ans avec mon sac à dos sur le dos. 5 ans en Europe, 2 ans en Australie. Et... juste les complémentaires santé, les assurances. Ici, les gens payent une fortune. C'est pas tout le monde qui y a accès. Ça coûte des 100, 200 $ par paye pour avoir des assurances pour les dents, pour les lunettes, pour les médecins, pour les médecins spécialisés, pour les massages. Tandis que moi, le temps que j'étais en France, ça me coûtait 39 euros par mois. Et j'avais vraiment, mais accès à tout, tout, tout. Et presque tout était remboursé entre 80 et 90 %. J'ai passé 2 ans en Australie. En Australie, ce qu'ils font pour les fonds de pension, tout le monde, donc c'est prélevé directement sur le salaire, c'est ce qu'ils appellent les superannulations. Donc, c'est pas obligé d'être dans une grande entreprise pour avoir des fonds de pension, pour avoir de l'argent qui est mis de côté à la fin pour la retraite, peu importe le salaire qu'on gagne.
C'est comme un revenu minimal garanti, c'est ça?
Voilà. Puis si on contribue plus, le patron contribue toujours à valeur égale de ce qu'on contribue.
Ouais.
Mais ça, c'est tout le monde qui y a accès. Donc, tu sais, c'est des trucs aussi qui peuvent améliorer la qualité de vie des gens. Moi, ça fait 19 ans, je suis en restauration. J'ai toujours eu un salaire minimum qui est même plus bas que les autres. Et en restauration, même si on a des pourboires, il faut savoir que les trois premières années, si on veut s'acheter une maison, même si on gagne bien notre vie, il faut que ça fasse minimum 3 ans qu'on travaille à temps plein avec des pourboires pour que nos pourboires soient comptés dans notre salaire, pour qu'on puisse avoir un dossier de crédit.
Ouais. Merci.
Donc, à un moment donné, pour ouvrir un petit peu, puis think out of the box, regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, puis on a peut-être des idées à aller chercher. Donc.
Merci beaucoup, Bruno. Effectivement, puis là, on a Carl qui nous appelle de Floride. On est ailleurs encore. Bonjour, Carl. Votre opinion là-dessus?
Ben écoute, je suis d'accord avec Bruno, qu'est-ce qu'il disait avant. Il y a des choses qu'il faut qu'ils changent, aussi au niveau fiscalité, je pense. Parce qu'ici, en Floride, il y a beaucoup de salaires qui sont beaucoup plus bas que 12,5 $ de l'heure.
Mm-hmm.
Les gens vivent, là. Mais je veux dire, c'est sûr que le taux d'imposition est beaucoup plus bas pour ces gens-là.
Ben oui.
Le taux d'imposition, ici, comme moi, je travaille en vente. Donc, en vente, là, au niveau salaire, ma portion salaire, qui est 10 $ de l'heure, qui est rien, là, je veux dire, est moins imposé qu'à ma portion commission ou bonus ou peu importe. Fait qu'il y a beaucoup d'ajustements. Puis ce que Bruno disait avant aussi, le coût des assurances. Tu sais, on paye au Québec 40 à 40 quelques % de taxes sur notre chèque de paye. Puis en plus, il faut se prendre des assurances au privé pour pouvoir avoir des services.
Ici, et on paye de plus en plus deux fois pour la même affaire, là. C'est ça qui est pénible de plus en plus. Vous avez une carte verte, Carl?
Oui, effectivement, j'ai eu ma green card, j'ai une carte verte, donc je suis résident permanent des États-Unis maintenant. Puis ici en Floride aussi, l'avantage, il n'y a pas d'impôt d'État, hein. C'est juste un impôt fédéral seulement, là, variable selon les revenus et tout ça. Là.
Vous êtes dans quel coin?
Orlando.
OK. Puis vous, revenir au Québec, c'est pas quelque chose que vous allez envisager?
Pas vraiment, non. Ma résidence est à vendre au Québec présentement. Puis moi, je suis ici depuis février présentement. Fait que j'ai échappé les 3 derniers mois d'hiver, dans le fond, quasiment. Là. Fait que non, effectivement, c'est pas quelque chose que j'entrevois parce que c'est un monde d'opportunités aussi, hein, ici. C'est ça qu'il faut aussi voir. Fait que c'est vraiment une question d'opportunité à 44 ans.
Puis vous êtes dans quel domaine, Carl?
Je suis dans la vente.
Vente de quoi?
Là, présentement, je vends des condominiums à temps partagé à timeshare.
Ah, OK. D'accord. Ben merci. Je savais que vous alliez me dire que vous n'aviez pas l'intention de revenir. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient tout de suite après. Oui, bonjour Roland. On vous écoute. On parle du salaire minimum aujourd'hui, 12 $ à 12,50 $, une augmentation de 50 sous à partir d'aujourd'hui, 1er mai, fête des travailleurs.
Oui, bonjour.
Bonjour à vous.
Moi, je trouve que c'est un peu ridicule. C'est de rire du monde, 50 cents. On ne peut pas rien voir avec 50 cents, même pas un paquet de gomme. Là.
Est-ce que vous travaillez, vous, Roland, en ce moment?
Oui, oui.
À combien? Combien de l'heure?
17, je suis cariste. Mais ce que je veux dire, surtout là-dessus, l'industrie, le commerce en général, ils disent qu'ils sont contre une hausse drastique du salaire minimum. Mais ils n'ont pas d'objection à augmenter le produit drastiquement, comme on dit.
Ah, ça, c'est
comme
un
j'ai
bon
vu,
point.
J'ai vu, il y a 2 ans, le chou-fleur à 3 $ passer à 12 $. Un chou-fleur pièce. J'avais une question aussi, je me demande. C'est que pourquoi que toutes la marchandise augmente puis les services en général le 1er janvier, puis que 4 mois plus tard, le salaire suit avec un petit 50 cents?
C'est un bon
avant,
point.
C'était le 1er janvier, puis il y a plusieurs années. Puis là, ils ont mis ça comme le 1er mai. T'es comme 4 mois en retard, là. Avec un petit 50 cents, tu pourras pas avoir un café. Moi, je trouve que c'est rire du monde. J'aurais mis ça, mettons, 13-14 $.
Et vous, Roland, vous faites 17 $ de l'heure. Vous faites quoi comme travail? J'ai pas bien compris, excusez-moi.
Carice. Chariot élévateur.
Ah, OK, d'accord.
Ouais.
Là, le fait de voir que, par exemple, quelqu'un qui faisait 12 fait 12,50, est-ce que vous, ça vous tente d'aller voir votre patron et de dire, regarde, moi, 17, mais moi, donc, 17,50?
Bon, là, je peux bien essayer, mais je ne suis pas sûr qu'il va être d'accord.
Ah, c'est ça. Hey,
je vais essayer.
Ouais, essayez donc, parce que, enfin, je vous dis ça demain. Faites bien ce que vous voulez. Merci, Roland. Merci bien. Beaucoup de gens qui nous écrivent aussi. Amélie qui dit il n'y a pas que les étudiants qui sont au salaire minimum. C'est pas tout le monde qui a ce qu'il faut faire, qui a ce qu'il faut pour faire autre chose. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont toutes sortes de problèmes de santé. Puis souvent, ben, t'as quoi comme choix? C'est les épiceries, les magasins. Et on en revient au cercle vicieux là, de la précarité, finalement. On a avec nous Yann. Bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai... Oui? Je voudrais... Moi, je suis pas... je suis quelqu'un qui est à l'aide financièrement chez moi.
Mm-hmm.
Puis je suis aux études pour génie physique. Fait que, tu sais, c'est pas de la... Mais... J'ai un problème avec le monde qui... Pas qui chiale, tu sais, 12,50, c'est bas. Mais tu sais, il faut aussi comparer le coût de la vie ici en, à comparer d'Ontario et ouais. Alberta qui gagnent plus cher.
Ouais.
Comme moi, mon appartement me coûte 850 $ pour un
4,5.
Puis mm-hmm. en Alberta, pour un appartement du même prix, c'est 1 400 $.
Oui, mais il n'y a à peu près pas d'impôts en Alberta.
Ben, non, les impôts sont quand même assez élevés en Alberta aussi. Comme nous, on a deux taxes, mais ça revient quasiment au même pourcentage qu'eux.
Ah, moi, c'est pas ce qu'on me disait, mais ça se peut écouter. Là, j'ai pas de chiffres pour vous ostiner là-dessus. Fait que... Mais en gros, ce que vous dites par rapport à ce qu'on a à payer, le coût de la vie ici est quand même relativement moins cher ici qu'ailleurs. Il y a des gens qui m'écrivent ça aussi, qui disent on a quand même beaucoup d'avantages à vivre au Québec. On est très axé. On est une. On est quand même assez social-démocrate, là, même si on se plaint beaucoup de la montée de la droite au Québec. Il en reste pour moi que c'est vrai qu'on a des avantages importants, mais il ne faut pas penser qu'on nous les donne, les amis. On les paye. Le monde qui travaille, là, il y a 40% à peu près des gens qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne peuvent pas en payer. Mais ceux qui en payent, ils en payent quand même pas mal. François, bonjour, on vous écoute?
Oui, bonjour. Moi, je suis cultivateur. J'ai une soixantaine de personnes que j'engage.
Ouais.
Puis moi, je suis content de vous parler aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que je ferais, c'est à partir de 21 ans, ça serait 15 $ salaire minimum.
Okay.
Un enfant de 16 ans, 17 ans, si je donne 150 $ par jour, 5 jours, ça fait 750 par semaine.
Mm-hmm.
J'ai les moyens de le payer, mais est-ce que j'ai aidé cette personne-là à lui donner 750 par semaine? Moi, de 16 ans à 18 ans, je lui donnerais 10 $ minimum, puis ils sont bons, là. Puis de 18 ans à 21 ans, 12 $ salaire minimum, mais 21 ans et plus, je donnerais 15 $ salaire minimum.
Vous iriez selon l'âge, parce que vous pensez
oui,
qu'à 21, on est plus responsable qu'à 17 ou 18?
Non, à 21 ans, il y en a qui ont des enfants, qui ont plus de responsabilités. Moi, le but, c'est de la personne de 16 ans, c'est qu'elle reste aux études. Pas que je donne 750 $ par semaine, puis qu'elle se dise, Colin, je ne vais plus à l'école, bien, j'ai fait de l'argent.
Ouais, c'est
vous me
ça.
Suivez-vous?
Oui, ouais, je comprends ce que vous voulez dire.
C'est un cercle vicieux.
Ouais.
C'est pas parce que je n'ai pas les moyens de la payer, là, pas du tout, ils sont tous si bons que les autres.
Fait que vous dites que c'est important qu'on ne monte pas trop le salaire minimum, surtout si on dit qu'il y a 60% des étudiants qui sont parmi ces 300 000 Québécois là, qui sont au salaire minimum, parce que ça pourrait les inciter à lâcher l'école. Mais justement, j'ai Fred William Miro, qui est président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants au cégep qui se disent « tellement intéressant le salaire minimum à temps plein que j'ai envie de me lancer là-dedans? »
Il n'y en a pas beaucoup parce que le salaire minimum pour l'instant n'est pas si avantageux que ça. Ceci dit, j'apporte quand même à l'attention que l'Ontario, qui a augmenté récemment son salaire minimum de 11,40 en 2017 à 14 $ en 2019, les gens disaient qu'il va y avoir une augmentation du taux de décrochage. Finalement, il y a eu une augmentation du nombre de diplômés durant l'année. Pourquoi? Parce que les gens ont moins besoin d'heures pour travailler, pour subvenir à leurs besoins durant leurs études. Donc, c'est un faux mythe là, de dire que si on augmente le salaire minimum, les étudiants vont tous lâcher l'école. Il y a quand même un avantage à aller chercher des diplômes qui permettent d'aller chercher un salaire beaucoup plus élevé que le salaire minimum.
Ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut le rappeler là, que minimalement, secondaire 5, c'est moins avantageux dans la vie. Si t'en as un, c'est mieux que rien. C'est mieux d'avoir lâché l'école que d'avoir décroché. Mais pour avoir des meilleures conditions, c'est prouvé qu'un DEC, c'est plus important. Ça donne un certain nombre. Je sais pas si vous l'avez le chiffre en milliers de dollars. Un diplôme universitaire aussi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont à l'université parce que dans certains milieux d'emploi, qui demandent peut-être par erreur un bac, parce qu'on t'aurait peut-être pas besoin d'un bac. Ça, c'est comme demander à quelqu'un qui lave la vaisselle d'être bilingue. Tu sais, des fois, on demande des affaires que t'as pas besoin d'avoir. Mais aujourd'hui, un bac, minimalement, là, c'est ça qui te permet d'avoir un salaire dans les 20-25 000. Sinon, c'est le salaire minimum, puis c'est ça, là, avec très peu d'heures. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Fred William Miro, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Simon Gaudreau, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Et Camille Goyette-Gingras, qui travaille chez Mimosa. Mimosa, ça a fini bien comme mot.
Ben oui,
on pourrait dire muguet, muguet aussi, puisque c'est le 1er mai.
Ben oui.
Offrez-vous du muguet.
C'est la fleur des couturières.
Oh, en plus?
Oui.
Merci à tout le monde. À demain.